Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Art plastique.
Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Sally Bonne, Annel Pigeat et Frédéric Bonnet pour parler ensemble de Sally Mann, mille et un passages au jeu de paume, Wright Morris, l'essence du visible à la Fondation Henri Cartier-Bresson et puis Erwin O'Life, Olaf Palm Spring à la galerie Rabouan-Moussion en fin d'émission comme nous l'avons fait les soirs précédents. Quelques conseils de nos critiques pour les expositions à voir cet été. Nous ouvrons cette dispute avec Sally Mann, mille et un passages jusqu'au 22 septembre au Jeu de Paume à Paris. C'est la première rétrospective en France de cette artiste américaine née en 1951. L'exposition présente une sélection de son travail sur près de 40 ans, soit une centaine de photographies réparties en 5 sections. Sarah Greenough et Sarah Kennell sont les commissaires de cette exposition. Sally Mann, elle est native de Virginie. Elle a, dit-elle, toujours cherché à décrire dans ses images ce qu'est la vie dans le sud des États-Unis. Et par ailleurs, on va en parler, elle utilise depuis le début des années 90 la technique du collodion humide, technique inventée au début de la photographie que Sally Mann apprécie pour ses imperfections. Voilà pour quelques éléments, mais on va bien sûr développer. Ce qu'on développera aussi, ce sont vos avis critiques, mais une première impression sur cette exposition, Sally Bonne pour Sally Mann. Bon, il fallait la faire tout de suite.
Oui. C'est une exposition hantée et intemporelle, sans complaisance et très touchante.
Frédéric Bonnet.
Oui, j'ai trouvé que c'était une exposition pénible, d'un travail pénible à regarder.
Annel Pigeat.
La précision des sentiments.
On va écouter furtivement Sally Mann nous parler de ce qu'elle ressent, elle, dans son travail photographique.
Ecstatic. The joy of looking at a negative, the fixer is dripping down your arms and you hold it up to the light, and I've said at other times that it's almost sexual in its intensity. You're just ecstatic.
Le plaisir qu'il y a à observer des négatifs, dit Sally Mann, le fixateur qui s'écoule le long des bras quand on suspend les tirages, j'ai dit de nombreuses fois que l'intensité de ce moment était presque sexuelle, ça rend extatique. Annaël Pigeat pour une description, dans un premier temps, du parcours de l'exposition au Jeu de Paume.
Eh bien, c'est un parcours assez simple qui est ordonnancé de façon chronologique et à la fois un peu thématique en 5 sections, comme vous commenciez à le dire, Arnaud. La première partie concerne la décennie 85-94. C'est une série de photographies qui est essentiellement concentrée autour d'un livre intitulé Immediate Family, qui montre la vie de famille de Sally Mann avec ses 3 enfants. Souvent des paysages de vacances, l'été, au bord d'une rivière, une vie très simple et très rustique. Ce sont de très grands formats à la chambre, avec une extrême précision des images, la plupart en noir et blanc, et puis aussi quelques photos en couleur. Ensuite, il y a une autre salle, au moment où ses enfants grandissent, au début des années 90, où ils disparaissent de ces images, dans lesquelles les paysages du sud de la du sud des États-Unis, de la Virginie, surgissent comme ça dans la photographie de Sally Mann, avec un questionnement un peu plus politique sur ce que c'est que ce sud américain qui apparaît de manière assez indirecte en fait dans ces images, et c'est ça une des qualités du travail. En fait, à la troisième section de l'exposition est intitulée de manière un peu plus métaphorique Ultime et pleine mesure. Alors on parle d'histoire, ça reste des paysages, mais on voit aussi, et sont un peu plus mises en avant, la dimension technique des recherches de, enfin, et un peu plus mis en avant la dimension technique des recherches de Saliman, la manière dont elle joue avec les accidents de l'image, de la photographie, sa fascination pour les procédés photographiques du 19e dont vous parlez. Ensuite, il y a une section plus humaine, disons, qui s'intitule de façon assez mystique « Abide with me », c'est-à-dire « Reste avec moi, Seigneur », dans laquelle il y a 4 séries de photographies qui sont mêlées dans un accrochage assez dynamique, 2 par 2. D'un côté, une série consacrée à Virginia Carter, dite Gigi, qui est une femme qui travaillait, afro-américaine, qui travaillait dans la famille de Saliman, enfant, et qui est mêlée avec des églises afro-américaines, enfin pour réserver aux Afro-Américains des années 50. Et de l'autre côté de la salle, 2 autres séries qui se mêlent, des portraits d'hommes noirs dont Saliman dit qu'elle ne les voyait pas quand elle était enfant, avec des paysages d'un marécage à l'air totalement infernal, dont on apprend pourtant qu'il était un refuge à l'époque des droits civiques pour ces hommes noirs, on le devine. Et la dernière partie de l'exposition, c'est une sorte de retour comme ça dans une boucle au sujet de la famille, avec les enfants grandis qui se ressemblent tous les uns les autres vus en très gros plan, des images de Saliman après un accident de cheval vu de très près aussi, des images de son mari atteint d'une maladie, déformation tardive, et qui éclaire rétrospectivement toute l'exposition sur sa fascination et sur l'omniprésence de la mort et d'une dimension très forte, très sombre de ce travail.
Voilà une description précise qui va nous permettre d'ouvrir le débat. Alors, commencez peut-être par la voix positive de Sally Bonne avant celle de Frédéric Bonnet, qu'il sera beaucoup moins, on a compris. Sally, qu'est-ce qui vous a intéressé, touché dans cette exposition consacrée à Saliman?
D'abord, c'est une exposition qui paraît comme un voyage à la fois dans le sud des États-Unis et puis c'est un parcours initiatique dans l'histoire aussi, notamment l'histoire du 19e siècle, dans l'intimité d'une famille et de son temps. Et c'est aussi le parcours initiatique d'un regard. On part des enfants, de la famille, de l'immédiateté du quotidien pour ensuite aller derrière les personnages qui sont montrés, c'est-à-dire le paysage dans lequel ils s'inscrivent, et pour aller essayer de travailler ce paysage et de le comprendre, et notamment de faire apparaître toutes les blessures, les plis que ce paysage contient. Et donc on a dans l'ensemble de l'exposition et dans ces 5 sections ce parcours qui revient à la fin, effectivement, comme l'a énoncé Anaël, mais qui traverse à la fois une expérience de l'espace et du temps, une expérience de l'histoire, une expérience mémorielle aussi du territoire, et une sorte de prise de conscience, puisque c'est un petit peu ça qui semble se passer, notamment dans la section qui est intitulé Demeure avec moi, enfin reste avec moi, et la précédente sur les champs de bataille qui sont photographiés, c'est-à-dire de se rendre compte en regardant et en contemplant ce paysage de sa puissance en fait historique. Et au fond, ce qui m'a semblé particulièrement touchant à la fois, c'est ce travail là de ce parcours initiatique global et la manière dont la photographie advient comme une sorte de mesure du temps, où il est question du début et de la fin, de l'enfance et de la mort, qui traverse l'idée d'une expérience sociale du temps, des surgissements de l'histoire dans le présent du regard photographique de Saliman, qu'elle n'attrape pas, mais qu'elle recherche plutôt, ou qu'elle essaye d'élaborer par le travail de la photographie. Ensuite, il m'a semblé que cette exposition rappelait une chose que disait Barthes, notamment dans La Chambre claire, c'est que le spectral est l'essence de la photographie. Et au fond, on est constamment face à des spectres, que ce soit les spectres des individus, que ce soit les spectres de l'histoire que la Terre prend, c'est-à-dire qu'en fait, ces paysages qu'elle montre à un moment donné, on a l'impression qu'ils sont gonflés, en fait, des morts qui sont enterrés. Donc il y a une espèce de puissance comme ça du réel historique qui remonte à la surface et qui est aidée en plus par la technique qu'elle utilise, celle du collodion, qui vient modifier en fait la surface de l'image. Et donc cette dimension spectrale, elle est très très forte et elle parcourt l'ensemble de l'exposition.
Alors, même exposition, tout autre regard, celui de Frédéric Bonnet.
Je suis parfaitement d'accord avec Sally quand elle parle de spectre et de dimension spectrale, parce qu'effectivement, j'ai trouvé que c'était une expo qui sentait la mort, mais qui sentait la mort à cause d'un effroyable conservatisme de l'image. Je ne vois pas l'intérêt, en 2019, de revenir à des procédés du 19e siècle pour les prises de vue et pour le traitement des images, parce que ça pourrait, à mon sens, avoir un intérêt si elle en faisait quelque chose de contemporain. Mais ce qui sent la mort dans cette exposition, c'est que justement rien n'est contemporain et qu'elle se penche continuellement sur le passé, beaucoup sur le passé, et que même quand elle regarde le présent, elle en fait un objet du passé par la manière de traiter les images. J'ai absolument détesté la première salle consacrée aux séries avec ses enfants parce que ça pose d'entrée quelque chose d'un manque total de fond quand on commence à vous expliquer que ce qui pourrait paraître authentique à l'image, c'est-à-dire instantané, spontané, ne l'est absolument pas, mais que tout est calculé, mis en scène. Donc déjà, les pauvres gosses ont dû passer l'après-midi à refaire la scène au bord du lac ou au machin, on les plaint. Mais en plus de ça, du coup, l'image... en elle-même n'a aucun intérêt visuellement, je trouve. C'est des images comme on en a vu dans l'histoire de la photographie, d'État. Et en plus de ça, quand on sait, quand on apprend le modus operandi, moi je trouve que ça finit d'achever la bête, si je puis dire. Ce qui aussi, à mes yeux, disqualifie totalement ce travail, c'est une trop grande recherche de lyrisme et de théâtralité qui me paraît n'être là que pour masquer la vacuité du fond. C'est intéressant de vouloir revenir sur l'histoire du Sud, l'histoire des gens du Sud, l'histoire de l'esclavage. Alors, quand on vous ressort les violons sur les rivières de sang qui ont coulé là, bon, c'est peut-être pas la peine non plus d'en faire trop. Mais donc pourquoi pas. Mais ça serait bien d'y apporter un regard contemporain. Or là, elle apporte un regard qui n'est pas contemporain et en plus une nouvelle fois avec des procédés d'arrière-garde. Et cette fascination, pour le drame, pour le morbide, elle est inaboutie parce que je pense qu'elle est inassumée. Je pense qu'il y a une fascination pour le morbide qui est inassumée car elle est floutée. Il y a des effets solarisés, c'est des effets floutés, c'est des effets enfumés. Et voilà, je trouve que rien n'est abouti, rien n'est résolu dans cette photographie de Saliman.
Bon, est-ce qu'on va avoir une troisième voix avec Annaëlle Pigeard sur cette exposition, peut-être plus tempérée?
C'est-à-dire que moi, je trouve que la qualité de cette recherche photographique, sa contemporanéité. Bon, c'est vrai qu'il y a la dimension politique dont la qualité est d'être non dite et d'être un peu invisible.
Enfin, elle est très dite dans la section demeure avec moi, qui moi m'a beaucoup gênée, je me permets.
Elle est très commentée. Elle est très commentée dans l'accompagnement de l'exposition, mais elle est relativement peu dite dans les images elles-mêmes de paysages. Bon, mais ce que j'allais dire surtout, c'est que la contemporanéité l'ensemble de cette œuvre me semble résider dans l'humanité des personnages et, comme je le disais au début, dans la précision des sentiments qui sont exprimés et des variations d'humeur qui traversent tous ces personnages, l'apparition et la disparition des enfants, l'angoisse des parents, la manière. Et alors, je suis pas d'accord avec Frédéric sur la dimension mise en scène de ces premières images, dans laquelle je trouve au contraire qu'on a l'impression, donc on raconte que les scènes au bord de la rivière Maori sont effectivement extrêmement travaillé et que c'est le fruit d'une véritable collaboration entre Saliman et ses enfants qui à l'époque ont entre 12 et 13 ans, en gros, entre 8 et 13 ans, enfin, qui sont assez petits, ou peut-être 5-6 ans, enfin, pour les plus jeunes. Et je trouve qu'on a au contraire l'impression d'une atmosphère de vacances où ils s'amusent plutôt les uns les autres, où les enfants se parlent entre eux, où ils font leur propre mise en scène, où on voit deux petites filles qui se maquillent l'une l'autre, et où, en fait, il y a une sorte d'écho entre ces jeux d'enfants et les jeux de peintre presque que Saliman met en œuvre tout au long de sa vie par la suite avec ses procédés photographiques du 19e siècle, c'est-à-dire en fait une sorte de cuisine amusante, enfin, ou de physique amusante, le collodion, voilà.
Ouais, ouais. Moi, j'aime beaucoup ces procédés, alors pour ce qu'ils sont à l'origine. C'est vrai que les utiliser, c'est toujours un petit peu compliqué, surtout quand il s'agit de... Je reviens encore à la section « Demeure avec moi », où elle photographie donc ces Afro-Américains qu'elle dit donc ne pas avoir vus avant. Alors, soit c'est d'une naïveté confondante, soit c'est d'un cynisme douteux, mais il y a quand même toujours un surplomb. Enfin, il y a quand même quelque chose où elle prend leur image, enfin, ils lui donnent, et donc elle est quand même toujours au-dessus. Moi, c'est une salle qui m'a quand même beaucoup gênée. Je continuerai après, Anaëlle.
Oui, d'autant plus que cette salle est accompagnée par un film dans lequel on voit, documentaire dans lequel on voit Saliman parler. Et en fait, le fait de plaquer des mots là-dessus, en plus des images qui portent quand même déjà assez clairement un message.
Très fine.
C'est assez lourd, ouais.
Et du coup, moi, c'est vrai que les images que je préfère dans cette exposition sont celles qui sont celles de paysage, enfin, celles où l'humain n'apparaît pas, parce qu'il me semble que là, du coup, elle est quand même obligée d'investir quelque chose qui est un peu plus, je sais pas, un peu plus tangible pour moi. Et même si plastiquement, il y a un savoir-faire que moi j'apprécie, j'ai un goût immodéré pour les vraies vieilles photos. Pas forcément pour les photos bricolées de Miroslav Tichy parce qu'il n'avait pas d'appareil, mais c'est une autre forme d'esthétique. Alors après, ces paroles très, très contrastées, ça les bonnes en réponse peut-être à Frédéric Bonnet.
Mais non, mais moi, je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée d'une fascination de la mort. La mort, elle est très présente, mais elle est présente par l'usage même de la photographie, en fait. C'est-à-dire que la photographie, elle est d'emblée, en fait, et d'ailleurs, elle le dit assez bien. Elle parle d'attraper les fantômes, mais au fond, ces spectres ou ces fantômes qu'elle essaye d'attraper, ils apparaissent à la surface de la photographie. Et au fond, moi, je trouve qu'il y a une forme de cohérence. Alors, même si ça peut être un peu problématique, ces usages comme ça de techniques anciennes aujourd'hui, mais il y a une sorte de cohérence. C'est-à-dire, si on reste dans cette question de la représentation un peu spectrale comme ça d'un réel et de son histoire, c'est... Pas pour revenir encore à Barthes, mais il disait que il y a une crise de mort qui apparaît au 19e siècle avec la photographie. Et au fond, il me semble qu'en allant chercher ces techniques anciennes, elles s'inscrivent en fait dans ce moment-là qui serait une crise de mort. Et au fond, son œuvre, elle est effectivement traversée par la mort. J'y vois pas une fascination, moi j'y vois une espèce de conscience comme ça, de volonté de manifester cette conscience. Par ailleurs, sur la question de la contemporanéité, il me semble que c'est pas parce qu'elle utilise une technique ancienne qu'elle est pas contemporaine. Enfin, pour moi, c'est pas un argument que de penser que l'utilisation d'une technique ancienne serait non contemporaine, en fait.
Non, je suis d'accord avec vous.
Son regard peut être contemporain.
Son regard pourrait être contemporain. Le problème, c'est qu'il ne l'est pas. Et que moi, je trouve que ce travail est totalement disqualifié parce que justement, il a un regard qui est complaisant sur l'histoire plus qu'une réelle interrogation sur l'histoire. Et qu'il se base entièrement sur l'histoire du Sud des États-Unis, revenir aux sources, revenir aux origines. Cette complaisance vis-à-vis de l'histoire me dérange terriblement. Effectivement, l'usage de ces techniques anciennes et les déformations, les imperfections qu'elles amènent auraient pu être intéressantes. Mais elles ne le sont pas, car je trouve que ce travail est totalement déconnecté de la réalité du monde d'aujourd'hui. C'est ça le problème. Et le plus consternant dans cette exposition, je crois que c'est les photos, quand genre, elle va rendre hommage aux Noirs maltraités, assassinés dans le sud des États-Unis avec des photos d'hommes noirs. Ces photos... Pardon, mais je les ai trouvés putassières. Cette manière de s'emparer du corps noir est scandaleuse. En le gommant, par le procédé de floutage, c'est une manière de refuser de l'affirmer alors qu'elle prétend faire le contraire. Je trouve ça honteux.
Moi, je trouvais ça problématique, à tout le moins. Allez, un dernier mot, Anaëlle Pija, sur Saliman au jeu de paume.
Une dimension effectivement étonnamment anachronique des procédés qu'elle utilise, mais qui en tout cas pour la première série, qui est moi de loin celle que j'ai préférée, un caractère anachronique qui est contredit justement par la précision de ces images qui est liée aux techniques même qu'elle utilise et à ces grands formats et à cette utilisation de très grandes chambres qui me semble tout à fait singulière.
Bon, allez voir par vous-même, vous avez jusqu'au 22 septembre pour découvrir cette exposition de Saliman qui s'intitule « 1001 passages » et qui est à voir au Jeu de Paume. Et il y a un gros catalogue aussi publié à cette occasion. Et je ne retrouve pas l'éditeur, ce qui est très mal. Vous ne l'avez pas en tête, vous ? Non, vous ne l'avez pas amené parce qu'il est très très lourd. C'est Xavier. Pardon ? C'est Hannibal. C'est Hannibal ? Me dit-on dans l'oreille.
Non, c'est Xavier Barral.
C'est Xavier Barral. Hannibal, c'est pour...
Il me semble que c'est Xavier Barral.
Xavier Barral,
non, c'est Xavier
Wright Morris.
Oui, je crois que c'est...
Bon.
Aussi.
Oui. Bon, il y a une information contradictoire. C'est bien Xavier Barral. Très bien. Hannibal, c'est pour notre ami Olaf...
Erwin Olaf.
Bon, salut à Xavier Barral. On continue parce qu'on va parler en effet de Wright Morris, d'Erwin Olaf et des conseils d'exposition pour cet été.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette exposition avec Wright Morris, l'essence du visible. Dans le catalogue, je le dis déjà, est coédité par la Fondation et Cartier-Bresson, les éditions Xavier Barral, je le redis. Il est né en 1910 dans le Nebraska. Wright Morris, il a voyagé en Europe au début des années 20. Et quand il revient aux États-Unis, il se dit, il faut que je sois écrivain. Mais très vite, il va aussi sentir et découvrir la photographie, se dire que la photographie, ça peut quand même peut-être l'aider à atteindre ce qu'il essaye, je le cite, de capturer avec les mots. La Fondation et Cartier-Bresson propose donc là aussi pour une première fois en France une exposition qui met en regard textes et images de Morris, commissariat d'Agnès Cyr. Avant de développer un premier sentiment sur cette exposition, Frédéric Bonnet.
Ah, j'ai trouvé que c'était une merveille cette exposition. C'est un travail vif, c'est un regard précis porté sur les choses, avec toujours un subtil équilibre entre la description et la poésie. Faut y courir.
Annaëlle Pijat.
Des objets humbles et habités.
Et Sally Bonne.
Ah, une très belle démonstration d'un regard d'écrivain qui tente d'habiter le monde en se tenant face aux faits.
Wright Morris, l'essence du visible. Ça, c'est un beau titre pour cette exposition à la Fondation et Cartier-Bresson. Est-ce que vous pourriez nous décrire, Frédéric Bonnet, la façon dont cette exposition est accrochée, son parcours?
Je peux tenter de vous décrire la
façon. Vous allez tenter, vous allez réussir, je suis sûr.
Dont cette exposition est accrochée. Ce que j'ai trouvé intéressant, justement, c'est qu'il n'y a pas de parcours dicté. C'est plutôt un accrochage par communauté d'objets, par rapprochement. Par rapprochement formel, l'exposition occupe l'espace central de la fondation. Il y a des cimaises au milieu, ça je vais y revenir. Mais donc, ce qu'on voit tout autour et sur l'extérieur des quatre cimaises mobiles qui dessinent un carré au centre de cet espace, c'est donc des fragments de paysages, des architectures, des détails d'intérieur, des intérieurs de tiroirs. Je trouvais fascinantes les photos de tiroirs, des miroirs, des églises, voilà, des tas de choses comme ça. C'est toujours des images qui ont du caractère, qui ont quelque chose de nerveux. Quand on pénètre donc la structure centrale, donc à travers ces quatre cimaises dont j'ai parlé, c'est là que finit, au-delà de la qualité magnifique et intrinsèque des images de Wright Morris, que finit de s'éclairer l'intelligence de son travail, puisque dans cet espace, on voit les trois photos. Les trois ouvrages qu'il a publiés mêlant des photos et des textes qui sont montrés là avec des extraits des pages du livre et quand je disais que c'était là qu'on comprenait la mesure de l'intelligence de ce travail, c'est que c'est là qu'on comprend que ce travail de Wright Morris, initié en 1946 avec un premier ouvrage qui s'appelait The Inhabitants, puis il y en a eu un second en 48 qui s'intitulait The Home Place, et un autre 20 ans plus tard en 68, God's Country and My People, c'est que on voit que Wright Morris, qui est initialement un écrivain et qui s'est mis après à la production de l'image à la photographie, a été quand même une sorte de précurseur de l'art conceptuel qui a quand même fait son jeu de l'association du texte et de l'image travaillant sur l'association des deux et en laissant une autonomie à chacun d'eux.
Anaël Pigeat pour entrer dans cette
précurseur de l'art conceptuel et d'une certaine manière ce rapport, ce jeu entre le texte et l'image m'a aussi bizarrement fait penser un peu au cinéma expérimental, à des films dans lesquels l'image et le son sont totalement déconnectés. Et avec cette comparaison, l'idée aussi d'une forme d'ennui, mais d'une sorte de jouissance de l'ennui. Je ferai une distinction dans les images de Wright Morris entre, d'une part, ces images de façade, de maison, enfin, c'est une image de paysage extérieur, de paysage, qui ressemble, pour dire la vérité, à beaucoup de ses prédécesseurs. On est quand même en 48, c'est 10 ans après les autres, et on sent qu'il a regardé un certain nombre de choses, que lui-même d'ailleurs aussi a été regardé par ses successeurs de Walker Evans, dans les prédécesseurs, à Robert Frank avec les Américains, dont on sait qu'il a regardé les images de Wright Morris. Donc d'une part, il y a ces images de paysage qui sont très réussies, qui sont très sensibles, qui sont là, mais qui sont pas, à mes yeux, totalement révolutionnaires. Et en revanche, à partir du moment où on rentre à l'intérieur des maisons, là, il y a une singularité de sa manière de saisir les images et les objets qui est vraiment particulièrement touchante et qui se manifeste par l'absence des humains et paradoxalement l'extrême humanité de ces images. Donc il y a les couverts de l'argenterie, je crois que c'est Robert Adams qui a parlé de la caresse du temps qui anime ces objets. Il y a ces tiroirs et ces coussins de couture dont parlait Frédéric. Il y a une image, alors il y a deux humains qui apparaissent quand même dans l'exposition, c'est Uncle Harry qui apparaît de dos et qui est apparemment une image mise en scène, et puis une ombre de Wright Morris lui-même devant une automobile. Et il y a une série de photos de cette automobile qui est une Ford T, si je ne me trompe pas, qui est très étonnante parce que on voit le véhicule photographié en entier de loin avec l'ombre du photographe, et l'explication dans un autre livre d'ailleurs qui est un recueil de textes dans lequel il y a deux entretiens tout à fait intéressants de Wright Morris. Donc on voit l'ombre du photographe à laquelle il n'a pas renoncé finalement parce qu'il trouvait que l'image était la meilleure. Et puis une autre photographie très étonnante de la vitre arrière de la voiture avec le reflet du paysage qui est en fait une sorte de forme abstraite. Franchement, si on voit pas les autres photos de la voiture, on aurait une peine à reconnaître ce dont il s'agit, et qui ressemble à ces pierres italiennes, les paesines, qui sont des paysages quasiment abstraits. Enfin, qui a une image extrêmement énigmatique, extrêmement simple et très habitée.
Sally Bonne sur cette exposition de Wright Morris.
Ouais, moi j'ai trouvé que la combinaison visuelle verbale, cette relation entre photo et texte était extrêmement intelligente, extrêmement juste. Et ce que propose Wright Morris dans cette invention qu'il fait de la photo-texte, enfin du photo-texte ou de la photo-texte, je sais pas comment on dit, c'est que le regardeur devient la troisième voix. Et que donc l'association entre le texte et l'image, il y a absolument aucune littéralité entre le texte et l'image, mais c'est la lecture, en fait, qui permet à l'imaginaire, en fait, de se développer. Et ce qui est extrêmement, extrêmement touchant, c'est, justement, le fait que cette relation de la photo à l'image, de la photo au texte ne soit jamais ni littérale ni illustrative. Et c'est au fond parce que les personnages de ces textes occupent des espaces que l'auteur photographie. C'est-à-dire qu'il leur trouve une place, il leur trouve un emplacement, il leur trouve un lieu, et c'est ça qui est absolument magnifique. C'est-à-dire qu'il leur trouve une habitation. Et ce qui m'a semblé, notamment, il y a effectivement, c'est très juste ce que disait Anaël sur le rapport entre l'extériorité des multiples façades qu'il photographie et l'intériorité de ces maisons dans lesquelles il rentre, c'est qu'au fond, ce qui nous donne à voir, c'est qu'est-ce qu'habiter, en fait. C'est vraiment, il s'interroge sur la manière à la fois d'habiter une maison, un espace, avec des choses très très concrètes. Ce tiroir, la photo du tiroir, elle est absolument somptueuse, avec une montre à gousset, une lampe de poche, une boîte de munitions, un petit couteau. Enfin, c'est une photographie très très étonnante. Donc à la fois occuper des espaces intérieurs, et donc notre intériorité, mais aussi habiter le monde. Et au fond, il, dans cette question des modes d'habiter, il revient aussi, parce que en fait, étymologiquement, habiter, habitus, ça provient du même mot. Et En pensant à ça, il y a aussi ces photographies de vêtements posés sur une patère ou des vêtements posés sur une chaise, etc. Et donc il y a cette relation entre le vêtement, l'habit, les gestes de l'habitude, la pelote d'épingle, la théière en fer, des objets du quotidien. On est vraiment dans cette manière d'habiter poétiquement peut-être justement le monde.
Annelle Pichard.
Je voulais revenir sur cette idée d'expérimentation, sur la dimension expérimentale de ce travail qui va avec son humilité et avec sa force. Finalement, c'est un homme qui n'a cessé de varier dans sa recherche entre l'écrivain, le photographe texteur, enfin celui qui mélange le texte et l'image. Et puis, il a des conversations avec des critiques qui lui disent « Maintenant, il faudrait que tu assumes vraiment la photographie et que tu fasses une exposition. » Il y a son épouse aussi, rencontrée au début des années 70, qui est galeriste et qui l'incite à faire pour la première fois une exposition de ses photographies exclusivement. Et la scénographie, à cet égard, de l'exposition de la Fondation Cartier-Bresson est tout à fait subtile parce qu'elle montre bien ces allées-venues entre les livres et les expositions. Et en fait, cela va avec la manipulation des images, puisque on s'aperçoit qu'il recadre énormément, et ça on le voit dans les livres, et qu'il va même parfois jusqu'à changer le sens des images, ce que l'on reconnaît notamment ce dont on s'aperçoit notamment dans une série de chaises qui est tout à fait étonnante. Il a une passion pour les chaises, et alors on voit toutes sortes de chaises, des petites, des hautes, des grandes, des basses. Et il ne cesse de manipuler, de faire des expériences, et c'est tout l'intérêt là aussi de sa méthode.
Non, mais j'attendais votre fin de phrase. Je ne savais pas que j'allais vous interrompre, mais je donne la parole bien sûr à Frédéric Bonnet.
Oui, moi je crois que c'est ça le grand intérêt de ce travail, c'est que l'image porte en elle le potentiel de sa réinvention en permanence, parce que justement, il faut qu'on précise que dans les trois ouvrages mentionnés, on retrouve les mêmes images qui ont été effectivement recadrées ou retravaillées ou inversées à l'horizontale, à la verticale.
Et subir toutes sortes de traitements, oui.
Et voilà. Ouais. Donc c'est la même image qui se déplace sur 20 ans et donc le même n'est plus l'identique et acquiert d'autres significations potentielles. Et là où la combinaison du texte et de l'image est intéressante, c'est que on n'est jamais dans l'illustration, mais on est toujours dans le décalage, avec une faculté d'interprétation de l'image qui va au-delà de l'évidence ou du lien possible, et une perpétuelle ambivalence entre une dimension pas documentaire mais descriptive, parce qu'on n'est jamais dans le documentaire, mais disons descriptive, et une dimension poétique. Et il joue vraiment de cette subtilité-là d'une manière absolument, je trouve magistrale.
Il y a un commentaire encore, ça les bonnes.
Oui, il y a une très grande frontalité des objets qui photographient, et cette grande frontalité donne une sorte de qualité de silence très particulière à ces images. Alors c'est des images qui sont faites à la chambre, et Wright Morris insiste sur ce qu'il appelle les impératifs de la composition, qui toujours dominent le sujet. À ce propos, ce qu'Anaël a relevé sur le reflet du paysage dans la vitre de la voiture, il y a une autre chose qui m'a troublée, c'est ces images de portes de maisons dont on ne sait pas, pour certaines, si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est-à-dire que le paysage qui est... On ne sait pas s'il reflète, et donc il est derrière nous, ou s'il est devant nous et qu'on voit à travers la fenêtre. Et c'est très troublant, en fait, cette espèce de position dans laquelle nous met l'image. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on regarde, et on a presque l'impression d'un décor, presque cinématographique d'ailleurs, comme si ces maisons avaient servi dans le sud-américain
Des tournages.
Des tournages, oui.
Et d'ailleurs, dans les images manipulées, retournées, il y en a une dont on s'aperçoit de la manip par la position de la serrure. Et là aussi, on se demande de quel côté de la porte on est, comme ça vient de le dire.
Beaucoup à voir, à lire aussi. Je crois qu'il a vraiment bien fait, Wright Morris. Ah oui, deux publications.
Oui, parce qu'il y en a... Alors, le catalogue édité par les éditions Xavier Barral est absolument somptueux. Ouais. Mais ils ont aussi publié, en fait, les textes de Wright Morris.
Texte et interview,
ça s'appelle Fragments de temps. Et voilà, c'est très beau. Donc, c'est une nouvelle occasion de saluer Xavier Barral.
Voilà, on va essayer de le dire une dizaine de fois d'ici la fin de l'émission. Xavier Barral, donc co-édite avec la Fondation Bresson, Henri Cartier-Bresson, ses ouvrages avec qui accompagnent l'exposition Wright Morris, l'essence du visible. Là aussi, c'est bien parce qu'on a le temps jusqu'au 29 septembre pour aller découvrir cette exposition.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Exposition en galerie à présent. Galerie, donc entrée libre, gratuite. Quand elle est ouverte, parce qu'il faut quand même expliquer que la galerie est enfermée depuis une semaine et rouvrant demain, Frédéric Bonnet, qui était encore par Mons et par Vaux, n'a pas vu l'exposition, mais par contre, a pu largement consulter le livre dont nous allons également parler, qui lui, pour le coup, est bel et bien publié aux éditions Hannibal, une monographie d'Erwin Olaf. Donc ce seront plutôt, évidemment, Anna Elpija et Sally Bonne qui vont parler de l'exposition et puis plus largement de l'artiste avec Frédéric Bonnet. Alors, peut-être un sentiment quand même. Alors sur l'artiste, tiens, Frédéric Bonnet, je commence par vous, Erwin Olaf.
C'est un travail que je trouve très ambigu et qui me laisse toujours très partagé. Et le livre, justement, qui retrace, alors je ne sais pas s'il y a tout son travail, mais en tout cas, ça traverse
beaucoup,
absolument toute sa carrière, m'a relaissé sentir ce que j'ai toujours perçu de son travail. Il y a des choses que je trouve remarquables et des choses qui me dérangent profondément.
Anna Elpija.
Je trouve que c'est un maniérisme efficace, ce qui représente probablement la clé de sa limite.
Ça est bonne.
Le royaume de l'artifice.
My name is Erwin Olaf and I'm a photographer. The kind of photography I'm doing.
Dans la photographie que je fais, j'essaie de donner corps à mes fantasmes. De prime abord, ça n'a rien à voir avec la réalité. En fait, j'ai toujours vécu dans mon monde imaginaire. C'est facile de dire qu'il faut suivre ses passions, mais vous devez suivre votre cœur. Et pour le faire, vous devez suivre une technique qui va vous permettre de vous exprimer le mieux. Et quand vous trouvez cette technique, il faut vous y cantonner pendant au moins 5 ans. Car il faut du temps au public pour comprendre votre travail alors que vous vous lassez vite. Au bout de 6 mois, vous avez envie de faire autre chose, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Les plus grands artistes sont reconnus par leur technique et leur sujet d'expression est secondaire.
Ainsi s'exprimait Erwin Olaf, il y a quelques années. Erwin Olaf, alors on va quand même commencer par parler de l'exposition qu'on peut voir dans la galerie. Elle rouvre demain, donc ça va très bien, et ce sera jusqu'au 27 juillet qu'on pourra découvrir donc la dernière série en date d'Erwin Olaf, Palm Springs. Vous la situez ou décrivez comment, Sally Bonne, cette exposition par rapport au... On va après élargir au travail d'Erwin Olaf.
Donc dans la galerie, on voit en fait une série de... une douzaine de photographies et 3 vidéos qui font partie de cette nouvelle série qui s'appelle Palm Springs, qui elle-même fait partie d'une trilogie, en fait, sur des villes, notamment sur des villes en changement. Donc les villes précédentes, c'était Berlin il y a quelques années et Shanghai, et maintenant c'est Palm Springs. Et la particularité de cette série de photos, contrairement aux 2 séries précédentes, c'est qu'elle se situe aussi en extérieur, ce qui n'était pas le cas, puisque ni à Berlin, ni à Shanghai, on ne voyait des vues de Berlin ou de Shanghai, mais plutôt des photos prises en studio. Donc là, c'est une sorte de nouveauté, sans doute, dans le travail d'Erwin Olaf. C'est ce rapport à une réalité extérieure, toujours extrêmement travaillée, très stylisée, très mise en scène. Donc, ce qu'on voit, c'est alors le choix de la ville de Palm Springs est sans doute lié. D'abord, c'est une ville qui est située dans le désert au sud de la Californie, qui est connue pour ses hôtels, ses stations thermales, ses parcours de golf, ses spas, mais aussi pour une architecture du milieu du XXe siècle. Et donc, Erwin Olaf est allé chercher en fait cette architecture-là, un peu daté, qui aussi représente une certaine image de la bourgeoisie américaine du sud des États-Unis. Et il place des individus dans des situations d'attente. Les personnages sont figés dans des décors intérieurs, donc de maisons, ou dans des décors extérieurs, une villa avec piscine, ou dans un territoire, dans un champ d'éoliennes. Donc il y a une mère et une fille devant un champ d'éoliennes qui regardent en fait non pas le champ d'éoliennes, mais ce qu'il appelle un cerf-volant, mais qui est en fait un drapeau américain un peu déchiré, pendu dans un arbre. On a aussi une photographie avec un homme à un bureau et un petit garçon assis à côté de lui sur une chaise. On a une image d'une d'une femme assise devant une voiture brûlée. Donc on a des intérieurs au décor des années 60, des extérieurs qui ont aussi cette particularité, et sans doute c'est la volonté, on va dire, peut-être qu'on pourra en discuter après, de une volonté peut-être un peu politique, en tout cas située de manière très contemporaine, de dire quelque chose de notre temps, et notamment de dimension peut-être écologique, à remettre en question sans doute.
Anna Elpijard, sur ce travail présenté à la galerie Rimbaud-Mousson.
En fait, Erwin Olaf, c'est un peu le bad boy devenu philosophe. au sens où il a commencé au milieu des années 80 à montrer les clubs comme ça, gays, avec des images extrêmement léchées, de fêtes, de... Bon. Et puis, cette série de Palm Springs a quelque chose d'assez maniériste, dans le sens où on sent que ce sont des images aussi, comme le disait Sally, extrêmement mise en scène, extrêmement léchée, extrêmement produite. Finalement, c'est un travail qui correspond à une époque et à une économie. Et on retrouve dans cette série qu'on voit dans l'exposition quelque chose de très narratif. On voit des personnages qui réapparaissent d'une image à l'autre. Le personnage de la mère, le personnage de la fille, le Erwin Olaf lui-même qui apparaît sous la forme de plusieurs autoportraits. On a le sentiment qu'il est très marqué par l'esthétique des séries télévisées hollywoodiennes. Et puis, il y a cette dimension politique, en effet, qui apparaît avec des éoliennes au loin, avec le drapeau américain, avec le mini-Trump, qui est un petit garçon qui apparaît comme le mini-Trump et qui est montré comme tel. Et finalement, bah, il y a aussi la fascination, évidemment, dans le maniérisme, dans l'idée du maniérisme, la fascination pour les corps qui apparaît dans plusieurs de ces images. Mais je trouve qu'il y a finalement dans tout ça quelque chose de très lisse qui finalement ne décolle pas vraiment et ne rend pas la chose follement excitante. En revanche, quand on voit dans le livre l'ampleur de son travail et qu'on voit toute l'évolution de sa démarche du milieu des années 80 à aujourd'hui, il y a une progression, il y a des variantes, il y a une évolution de son travail et ses séries, ce qui fait lui une figure indéniable. Voilà.
Alors on peut voir une progression, on peut voir aussi, on a l'impression que c'est un livre collectif quand même, parce que quand on regarde vraiment cette monographie, enfin moi c'est le sentiment que j'ai eu, Frédéric Bonnet, je me dis mais ces séries-là sont pas faites par la même personne, ce n'est pas possible.
Mais oui, et quand je parlais justement de dualité ou de dichotomie dans le travail, c'est exactement ça. C'est qu'il y a des choses qui sont remarquables, il y a des choses qui sont consternantes. Le travail des années 80 n'a aucun intérêt, les photos de club, de machin. Hein.
Alors, pour le coup, il y en a eu d'autres bien meilleures à la même époque.
Des références Mapplethorpiennes, évidentes et assumées, mais embarrassantes, véritablement.
Bon, il est buté, le pauvre.
Véritablement. Moi, c'est l'étrangeté de son rapport au réel et à son époque qui m'interroge. Mais parfois, la singularité qui est la sienne est tellement surjouée qu'elle crée des images tellement déconnectées à la fois du réel et de l'imaginaire que on passe à côté parce que on y perd tout intérêt. L'image, parfois, je n'y crois pas, mais j'ai besoin de penser que je peux y croire. Et là, ça fait une bonne image. Là, il y a des fois des images, on n'y croit pas et on sait qu'on peut pas y croire de toute façon. C'est quand il va vraiment dans l'outrance, et c'est là où c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde quelque part. Quand il va vraiment dans l'outrance, c'est toujours très très mauvais. Il y a cette série qui s'intitule Fashion Victim. Il y a une image où le bouquin littéralement est tombé des mains, un homme nu pressé contre un mur avec le bout de son sexe énorme qui dépasse et un sac Gucci sur la tête.
J'espère qu'il ne vous avait pas tombé sur le pied, le livre, parce qu'il est lourd.
Non, heureusement, je ne me suis pas blessé.
C'est dommage.
Mais parce qu'il aurait plus manqué que ça. Mais quelques pages plus loin, on tombe sur une série absolument magnifique, une des plus belles du livre, très très subtile. J'ai plus le titre, mais c'est tous des personnages qui tournent la tête ou baissent le regard dans des décors très subtils, précisément construits. Et là, c'est absolument magnifique. Donc, il y a vraiment une ambivalence perpétuelle qui fait qu'on ne sait jamais trop à quoi se raccrocher et finalement, quoi garder du travail.
Ça, elle est bonne.
Oui. Alors, il y a d'abord dans l'exposition, Il y a des choses qu'on retrouve dans le livre, mais dans l'exposition, il y a cette particularité qu'on est quand même dans une sorte d'ambiance de fin du monde, un peu lourde, un peu dense. Et ce qui se révèle, c'est à la fois de l'accablement et de l'inquiétude qui traverse un petit peu, hein, quand on regarde le livre, qui traverse un petit peu l'ensemble de son œuvre. Ce qui me gêne particulièrement, et notamment peut-être encore plus sur cette série Palm Springs, c'est que il garde de ses années de photographe de publicité, puisqu'il était photographe de publicité, cette esthétique stylisée, très brillante, très artificielle, et surtout extrêmement référencée. Et je me promenais dans la galerie, et je me dis, tiens, là, on dirait du Gregory Crutzen pour la mise en scène cinématographique. Ça, tiens, on dirait du Sam Taylor Wood ou du Bill Viola pour les natures mortes au ralenti. Tiens, on dirait, David Hockney pour les scènes de piscine, ou Jeff Wall.
Oui, bon, on dirait, mais toujours un peu en moins bien quand même.
Oui. Et c'est, en fait, à un moment donné, ça devient problématique. C'est-à-dire que je me suis posé la question de savoir si c'était totalement assumé. Et donc, il y avait ce jeu-là de référencement. Et au fond, je ne l'ai pas vu non plus. Et donc, son travail passe derrière, en fait. Et c'est ça qui est problématique.
Frédéric Bonnet.
Non, et je suis entièrement d'accord avec Sally. Bon, je n'ai pas vu l'exposition, mais la série est reproduite dans le bouquin. Et effectivement, j'ai eu la même sensation d'être face à une série de mode dans un magazine des années 90.
C'est exactement ce que je voulais dire en parlant d'un travail qui correspond à une époque et à une économie. Vraiment, il y a une autre dimension aussi dans l'exposition. Il y a des vidéos. Sally parlait de la vidéo du drapeau. Il y a aussi en introduction de l'exposition une très grande vidéo qui est un bouquet de fleurs qui tombe, de tulipes, qui les pétales ne tombent pas jusqu'au bout, qui se fanent et qui se relèvent, qui est un hommage à sa mère et très évidemment à la peinture hollandaise.
Il est hollandais, on l'a peut-être pas dit.
Il est hollandais. Cette référence à la peinture hollandaise est constante dans son travail, lumière jaune, vermeil, etc. À cela, il ajoute ensuite des références au cinéma. Il parle de Mort à Venise, il parle de Visconti et il parle de Fassbinder. Et en fait, là, ça se gâte parce que, en fait, il y a une sorte de lourdeur qui en pèse une partie de ces images dont il est difficile de se défaire.
Bon, allez voir tout de même, hein. En plus, c'est gratuit, je rappelle. Exposition de galerie, allez dans toutes les galeries. Vous découvrirez des choses que vous aimerez, que vous aimerez pas. Et c'est comme ça que le goût se forge. Après tout, cette exposition d'Erwin Onaf, Palm Springs, elle est jusqu'au 27 juillet à la galerie Rabouin-Moussion. Et cette monographie monumentale vient de paraître, elle, aux éditions Hannibal.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
On reste encore quelques minutes ensemble pour quelques conseils avisés de nos critiques ce soir pour des expositions à découvrir cet été dans toutes nos belles régions, peut-être même hors des frontières, allez savoir. Frédéric Bonnet, vous qui passez votre temps avec un bilan carbone pas très bon, mais à parcourir la planète, vous pourrez y aller en vélo peut-être, non. Quelles expositions est-ce que vous nous conseillez d'aller voir?
Si je vous dis Japon, justement, j'ai fini d'enfoncer le clou du bilan carbone, pour ceux qui iraient au Japon cet été, essayez d'aller voir la triennale de Setouchi. Je n'ai pas vu la triennale, mais elle se tient dans cet ensemble d'îles magnifiques qui regroupe Naoshima, Teshima et plein d'eau dans la intérieur de cette eau. Donc il y a la triennale qui se tient cette année et il y a l'occasion de retourner ou d'aller pour la première fois au musée Liu Fan. Si vous vous souvenez de Liu Fan à Versailles, la pièce majeure était une grande arche tenue par deux pierres. Eh bien, il en a recréé une version quasi identique là-bas. Donc il a trouvé une place définitive au bord de la mer et c'est absolument magistral parce que là où à Versailles il y avait un jeu dangereux quelque part entre l'architecture et la sculpture, tout en tension et en équilibre et complètement avare de discours surtout de Liu Fan, là à Naoshima elle prend absolument tout son ampleur dans ce cadre naturel absolument magnifique et elle gagne encore en puissance visuelle et surtout en fragilité, ce que finalement je trouvais qu'elle avait peut-être pas trop à Versailles, et donc c'est magnifique. Et puis le musée Liu Fan à Naoshima est une construction de Tadao Ando qu'il a conçu avec l'artiste. Et c'est pas un musée immense, mais ça retrace la carrière. Et si on veut se refaire un petit peu une connaissance du travail, c'est une belle manière de le faire, sans oublier que donc il y a la triennale cet été. Donc il faut se promener d'île en île pour aller voir des installations diverses et variées. Et que c'est magnifique et intéressant. Il y a des beaux musées partout.
Bon, et puis si effectivement c'est pas cet été. Le musée va rester.
Non, mais voilà, le musée reste, et puis on peut y aller n'importe quand dans l'année, même une fois la triennale terminée.
D'y aller un jour.
Voilà, bien sûr. Voilà,
je prendrai vos bons conseils, évidemment, avant de partir. Anaëlle Pija.
Alors, moi je suis restée en France, j'ai 4 propositions à vous faire.
Allez, 2 pour commencer, comme ça on variera les paroles.
2 pour commencer. Alors la première, c'est à Landerneau, à la Fondation Leclerc, une exposition sur les cabinets de curiosité, qui est vraiment un terrain de jeu très très amusant, conçu par Laurent Lebon.
Il a fait gagner des entrées dans le jeu de la dispute hier.
Exactement, et alors il a rassemblé un certain nombre d'inventeurs de cabinets de curiosité. Il s'agit en fait moins d'une exposition de collectionneurs que d'un questionnement sur la manière de montrer des objets. Il y a parmi ces inventeurs de cabinets de curiosité un galeriste, le muséum d'histoire naturelle, un collectionneur anonyme, des artistes. Il faut se promener là-dedans, c'est une merveille.
Ça c'est Landerneau.
La deuxième, c'est une promenade du côté de Montpellier. Ça ouvre demain, si je ne me trompe pas, et c'est ou après-demain. Enfin, en tout cas, ça c'est imminent.
Cette fin de semaine.
C'est le MoCo. C'est Nicolas Bourriaud qui ouvre 3 institutions regroupées dans une institution. L'École des Beaux-Arts, un centre d'art contemporain, la Panacée, qui existait déjà mais qui rejoint cette structure. Et puis un lieu qui est destiné et consacré exclusivement à la question des collections de par le monde, qui ouvre avec une collection japonaise, la collection Ishigawa, dont le commissariat est assuré par Yuko Hasegawa, qui est une grande commissaire internationale. Je n'ai pas encore vu l'exposition,
forcément,
et pour cause, mais je pense qu'elle promet d'être tout à fait passionnante.
Bon, une dominante nippone hein, pour ses premiers conseils. Sally, quelque chose du côté du Japon?
Non, moi je vous propose d'aller plutôt à l'ouest, prendre un peu de fraîcheur, et d'aller au point du jour à Cherbourg.
Ah, ben ça, alors là, je ne peux que souligner et apprécier votre proposition.
Et donc, c'est une exposition de Constance Nouvelle, qui est une artiste photographe. Et l'exposition s'intitule Solstice, c'est le deuxième volet en fait d'une trilogie. La première partie a eu lieu à la galerie Fabienne Leclerc il y a quelques mois, c'était février-mars je crois, et ça s'appelait Atalante. Et la dernière partie de cette trilogie aura lieu en janvier prochain au CPIF, Centre de photographie d'Île-de-France. Et donc ces 3 expositions construisent une narration, mais elles ont leur autonomie propre. Il n'est pas du tout nécessaire d'avoir vu l'exposition précédente pour voir celle-ci. Ce que propose Constance Nouvelle là, elle travaille sur l'espace atmosphérique, paysager, sur l'espace architectural, et dans et de la photographie. Et donc ce qu'elle montre, ce sont des images liées au voyage, aux grands espaces, notamment américains, qu'on retrouve encore une fois aujourd'hui, le paysage et sa représentation, le décor, le diorama, tout ça sont des éléments qui sont convoqués sans qu'ils soient jamais décidés du point de vue du spectateur de résolument de l'endroit où on se trouve, à l'intérieur de l'espace de la représentation ou à l'extérieur. Et donc il y a un jeu qui est construit, qui est un jeu à la fois de manière un peu plus global entre les 3 expositions, mais aussi un jeu à l'intérieur même de l'exposition où l'espace du point du jour à Cherbourg devient en fait le boîtier photographique dans lequel des images mentales sont projetées. Et au fond, on est à la fois dans l'image, et puis quand on regarde l'image, enfin on se retrouve physiquement dans une des images, puisqu'elle a même en fait peint, dessiné au mur d'un des murs du point du jour. Et ce travail-là qu'elle fait directement sur le mur, en fait, nous inscrit aussi à l'intérieur de l'image photographique, donc d'une image mentale.
C'est à Cherbourg, au point du jour, Constance Nouvelle. 1 minute pour encore 2 autres lieux, peut-être.
2 expositions de peinture à Avignon. La première, Myriam Haddad, une jeune artiste aussi, qui est peintre, donc qui a fait l'image du Festival d'Avignon et qui montre à la collection Lambert, un ensemble de tableaux tout à fait virtuoses, qui ressemblent à des tableaux abstraits et qui n'en sont pas. Et puis, à Monaco, au Grimaldi Forum, Dali, on connaît, mais là, c'est une perspective intime sur Dali et la peinture, à partir de trois lieux essentiels pour Dali. Porligat, sa maison atelier, Poubol et le musée de Figueras.
Alors, Frédéric Bonnet.
Pour rester à Monaco, le Ettore Spalletti au nouveau musée national de Monaco, cette peinture spatiale est magnifiquement méditative, je crois que c'est à ne pas rater.
Bon, Monaco, Landerneau, Cherbourg, Montpellier et le Japon, voilà de quoi voyager cet été. Joséphine Dumoulin nous a rejoint pour le jeu de la dispute. Et d'abord un rappel de la question d'hier pour nous donner sa réponse.
La question était: quel plasticien metteur en scène exposant actuellement à Paris présente son cabinet de curiosité au fond Hélène et Édouard Leclerc? Et la réponse était Théo Mercier.
Ce soir, des DVD à gagner du film Les Estivants de Valeria Brunet-Tedeschi, c'est édité par Advitam. Quelle est la question?
De quel écrivain russe Valeria Brunet-Tedeschi a-t-elle adapté librement l'une des pièces pour son autofiction Les Estivants?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucide Como, Boris Pinot et Joséphine Dumoulin, prise de son Emmanuel Morse-Duncan et Pierrick Monsigny, réalisation Alexandre Fougeron. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature. Nous serons avec Elisabeth Philippe, Jean-Christophe Brianchon et Philippe Chevillier. Nous parlerons de « Avant le bouleversement du monde » de Claire Messud, « La chambre de l'araignée » de Mohamed Abdelnaby, « Le livre du dedans » de Patrick Bouvet. Nous aurons un coup de cœur de Jean-Christophe Brianchon.
France Culture, l'esprit d'ouverture.